Eco.
Demain, roulerons-nous tous en voiture électrique? On se pose la question sur Europe 1, c'est votre vendredi thématique. Dans tous vos rendez-vous d'information aujourd'hui, l'Union européenne, vous le savez, vient d'acter la fin du moteur thermique en 2035. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour les usagers de la route, pour les propriétaires de voitures, pour aussi le système automobile, c'est-à-dire les routes, les garages, les concessions, les stations-service? Bonjour Mathieu Flonneau.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes historien, spécialiste d'histoire urbaine, c'est un plaisir d'être en ligne avec vous. Vous avez beaucoup écrit sur ce que vous appelez l'automobilisme, c'est-à-dire le véhicule, mais aussi tout le système qui l'entoure. Alors certains, Mathieu Flonneau, parlent à propos de la voiture électrique, d'un tournant, d'une révolution électrique. Alors vous, vous dites que c'est même plus que ça, c'est un nouveau régime routier qui est en gestation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on ne mesure probablement pas toutes les conséquences, toutes les implications de l'archaïsation de l'automobilisme thermique tel qu'il s'est développé très largement et sans publicité mensongère pendant près d'un siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est parvenu à une situation que certains qualifient, et pour des raisons sanitaires bien compréhensibles, de dépendance, avec des guillemets quasiment maladives à l'égard de l'automobile, c'est aussi parce que celle-ci a été beaucoup désirée, c'est aussi parce que celle-ci s'est fait un écosystème cohérent qui a accompagné une forme de progrès, une forme de liberté et de désir profond d'aspiration à l'individualisme de nos sociétés contemporaines.
Alors vous écrivez, Mathieu Flonneau, que rationnellement, écologiquement, l'auto, elle paraît condamnée. Alors seulement, on imagine mal que même dans 20-30 ans, la voiture ait disparu de notre civilisation. Ça paraît impensable.
Bah là, vous pointez quelque chose qui est évidemment les limites de l'obsolescence programmée, parce que ce thème est cher aux écologistes, mais là, il s'agirait de remiser, de remettre au garage eh bien, tous les véhicules qui ne rentrent pas dans les ZFE, les critères ont été donnés, et puis cette transition dont les étapes extrêmement serrées ont été dictées par l'Union européenne. Donc il y a effectivement un souci sur le rythme de cette mutation, de ce choc de mobilité, sur ses implications réelles. Oui. Et naturellement, ce qui est à sauver mérite d'être réfléchi en termes quasiment éthiques ou philosophiques. Et je m'explique, je vais adosser le propos là à deux travaux récents. Une exposition qui se tient en ce moment au Conservatoire National des Arts et Métiers qui s'intitule « Permis de conduire » avec un point d'interrogation. Parce que l'idée est vraiment de mettre en question la mutation qui est en cours et qui risque de conduire, c'est le cas de le dire, à l'abandon d'une souveraineté à la fois individuelle et collective. Ouais. Et je pose cette question philosophiquement, quasiment, politiquement, absolument, dans la revue politique et parlementaire d'octobre avec un article sur la valeur et le prix de l'automobilisme. Parce que ce qui est derrière, c'est une forme d'humanisme, j'ose le dire, et une forme d'universalisme. Et ces deux points risquent d'être perdus avec les mutations en cours, parce que vous avez parlé de l'électrification, bien évidemment, mais il faudrait y réfléchir aussi l'autonomie. Les véhicules dits autonomes que l'on nous promet, mais qui sont en réalité tout l'inverse, c'est-à-dire ce sera une société tracée de A à Z.
Alors, vous venez de nous dire que l'électrique, la transition vers l'électrique, elle nous est dictée par le politique. Il y a eu cette phrase assez stupéfiante quand même du patron de Stellantis, Carlos Tavares, en janvier, qui disait, et c'est vous dire quand même à quel point il met à distance l'affaire, il dit « L'électrification, c'est la technologie choisie par les politiques, pas par l'industrie. » Alors comment on explique ce choix par le législateur, en l'occurrence par l'Europe, et puis dans chacun des pays de l'Union, de l'électrique? Quel est l'avantage de cette technologie? Pourquoi ce choix de la technologie électrique? On aurait pu aller vers, par exemple, l'hydrogène aussi, hein.
Moi, je ne vous répondrai pas en termes techniques, c'est-à-dire que pour moi, l'objet automobile, il est social, politique, et Carlos Tavares a révélé quelque chose qui est évidemment sous-jacent à toute cette industrie qui s'est retrouvée dans un mondial quand même assez triste et très chinois il y a moins de 15 jours.
Le mondial de l'automobile à Paris, oui, effectivement, il y a 15 jours.
Bien sûr, et là, les propos, vous en avez cité un, mais ils ont été multiples. Ils ont été tenus par Emmanuel Macron lui-même, par Bruno Le Maire lui-même. Les propos sur la fin de la naïveté à l'égard de ce choix technologique qui n'a rien de neutre ont été réitérés à plusieurs reprises. C'est-à-dire que, à certains égards, à date, aujourd'hui, c'est effectivement un tapis rouge déroulé aux constructeurs chinois qui étaient présents en force. Et l'une des personnalités actives du monde de l'automobile, Xavier Oran, là récemment, pour Mobidiance, qui évoque tout ce système de l'équipement, de la production et de l'entretien automobile, a dit que le risque existe de voir un prochain mondial de l'automobile exclusivement en Chine. Parce qu'il y a là un retard qu'il s'agit de combler, mais qui est tout de même extrêmement handicapant sur la ligne de départ, qui est pris par l'Union européenne, et c'est pas que la France qui est menacée. Oui. Alors on peut comprendre, et là j'apporte un élément, parce que on peut comprendre qu'au niveau de l'Union européenne, où il y a 27, 26 pays, il n'y a plus que 3 pays constructeurs automobiles, donc les autres n'ont pas véritablement intérêt.
Donc c'est l'Allemagne, la France et l'Espagne, hein, les 3 constructeurs.
Et l'Italie aussi, parce que l'Espagne est un constructeur, mais pas un constructeur souverain, les pays souverains.
C'est un assembleur.
Voilà, et l'Italie est en passe éventuellement de le devenir, et la France également. Et c'est là un enjeu, naturellement, de conserver une soutenabilité qui soit économique, sociale, territoriale, et qui puisse être conjuguée à la soutenabilité écologique que tout le monde recherche, encore une fois, l'électrification ne garantit pas.
Mathieu Flonneau, alors je rappelle, vous êtes historien. Regardons maintenant ce qui va se passer à hauteur de volant, à hauteur de l'usager, qui lui se dit qu'il n'a pas trop le choix. Hein. Si on lui impose le moteur électrique, la voiture électrique, il n'aura pas trop le choix d'y aller. Qu'est-ce qui va changer très concrètement? D'abord, regardons la question du budget. On sait qu'une voiture électrique aujourd'hui, c'est globalement 10 000 euros plus cher que sa version thermique. Est-ce que ça va rester comme ça longtemps?
Toujours est-il que, cela a été dit également, on risque de se couper des classes moyennes qui ne pourront plus accéder à ce qui a été un objet de liberté, de promotion statutaire, évidemment, mais encore une fois, qui n'a pas fait mentir la promesse d'émancipation, la promesse de non-assignation.
Donc vous voyez se profiler le risque que la moitié de la population ne puisse plus acheter de voiture. Ça paraît incroyable. On se dit que l'État mettra un quoi qu'il en coûte automobile d'une certaine manière en place.
Écoutez, c'est quelque chose qui est véritablement discuté, qui est discuté par une écologie radicale, comme vous le savez. C'est-à-dire que c'est un choix de liberté. Et est-on véritablement prêt à abandonner, et c'est là que la question est éthique, et à abandonner cette forme de souveraineté aussi individuelle? Et surtout, est-on prêt à garantir une offre de mobilité qui aujourd'hui est pléthorique dans les métropoles, qui est plus orpheline dans les zones périphériques ou rurales? Mais est-on prêt à garantir des choix d'habitat que les gens ont fait, donc pour des raisons économiques également?
Vous restez interrogatif, vous n'avez pas la réponse, mais on vous sent plutôt préoccupé, Mathieu Flonneau. Vous n'êtes pas du tout certain qu'on parvienne demain à maintenir la voiture accessible au plus grand nombre.
Mais ceci, c'est une évidence. Il faut sortir de la naïveté qui consisterait à croire que les gens, pacifiquement, aussi, accepteront. Il y a une forme de grand refus possible de cette mesure. On a pu lire des sondages qui indiquent que 42% des gens qui seront interdits d'aller en ZFE continueront de le faire. Donc ça interroge quand même sur la validation démocratique d'une telle option.
Oui, ZFE, les zones à faible émission, on en reparlera d'ailleurs dans le journal de 7h30. Alors peut-être un peu plus léger, Mathieu Flonneau, vous avez quand même posé des enjeux quand même gigantesques. La voiture électrique, aujourd'hui rien ne lui ressemble plus à une voiture thermique que sa version électrique. Est-ce qu'on va connaître un changement radical de design des voitures dès lors qu'il n'y aura plus que des voitures électriques? C'est bien ce qui se profile.
Écoutez, là, l'histoire du design nous apprend que les ruptures en cette matière sont quand même très rares. Et la voiture demeurera à quatre roues, ça c'est une évidence. Après, sur les formes, on peut aussi être préoccupé sur l'alourdissement, sur le fait que les batteries sont volumineuses, et le choix des SUV, finalement, est aussi un choix rationnel si l'on veut conserver une forme d'autonomie qui soit comparable à la voiture thermique. Autrement dit, c'est véritablement un changement, soit on reste dans cette lignée-là, qui est insoutenable, de garantie d'offre de mobilité, soit on bascule vers autre chose qui se rapproche de ce que l'on voit dans les rues, c'est-à-dire plutôt des voiturettes. Il y en avait beaucoup présentées au Mondial de l'Auto. Citroën en commercialise une qui est très joliment nommée Ami. Oui, c'est une manière de conserver cette convivialité automobile. Néanmoins, on perd aussi tout un pan de l'histoire automobile auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire un pan qui fait de l'automobile un bel objet, un objet éventuellement de beaux-arts.
Merci. Merci Mathieu Flonneau d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'automobilisme. Merci à vous, bonne journée. 7h22 sur Europe 1.